Bonjour, vous êtes bien sur Radio Méga, bienvenue dans notre émission Underscore. Cette fois, je prends mon bateau et je surfe sur le net, le drapeau de Lancy volant au vent, en avant toute.
Oh oui, du bateau.
Bonjour Mayman, bonjour Doudou, bonjour Maître Belle.
Bonjour.
Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et bonjour Alice, qui nous accompagne pour cette émission, parce que ouais, c'est encore un peu les vacances.
Ouais.
Eh oui, du bateau, on va parler peut-être de pirates ou de cyberattaque. Je t'en dis pas plus parce que sinon ça va te faire peur.
Ah oui, mais là j'ai déjà peur là.
Oh là, là. Mais avant un peu d'actu.
Ah bah qu'est-ce qu'on a?
Sortie du premier microcontrôleur RISC-V avec FPGA embarqué complètement open source, le Clear. Il est gravé avec 130 nanomètres et produit avec le programme Chipignite de la société de production ASCII et Fabless. La totalité du dossier de fabrication du composant est publiée.
ASIC. ASCII, c'est autre chose.
La défenseur des droits inquiète de la numérisation des services publics. Claire Redon critique la numérisation à marche forcée des services de l'État et plaide pour une solution alternative à l'attention des personnes qui n'ont pas Internet ou n'en maîtrisent pas l'accès. 3 ans après, un premier rapport sur la dématérialisation et inégalité d'accès aux services publics, les réclamations sont toujours plus nombreuses et un nouveau rapport vient de sortir détaillant ces problèmes.
La quadrature du net fait le bilan du quinquennat. 5 années de surveillance et de censure. Le président, qui n'est toujours pas candidat, a un CV bien fourni concernant les mauvaises idées.
La pénurie de semi-conducteurs devrait se résorber d'ici la fin de l'année.
Ouais.
C'est ce qu'affirme Foxconn, le sous-traitant d'Apple, entre autres.
Le Parlement européen souhaiterait rendre remplaçables toutes les batteries. Un rapport dénonce l'obsolescence prématurée des objets concernant des batteries non remplaçables et débouchera peut-être sur une législation à ce sujet.
Le fonds d'aide à la réparation d'objets électroniques devrait être en place pour septembre. Le but est de soutenir la réparation en la rendant moins chère.
Mais c'est tout pour l'actu.
Eh bien, c'est déjà bien, mais alors vraiment, on va en finir avec cette pénurie?
Bah, c'est ce qu'ils disent, hein. Après, je ne suis pas allé vérifier sur place.
On n'a
pas de budget pour les reporters de terrain.
C'est ça, mais selon mes sources, peut-être que ouais, d'ici 2023, on devrait être un peu plus tranquille.
Hop, c'est des sources.
Ouais, j'ai des sources. Ouais. Un petit peu de musique?
Ouais.
On écoute Archon de Serror pour nous retrouver juste après notre sujet du jour sur la crise avec les cyberattaques.
C'est la crise. Thank you.
C'était l'Archon de Seror, une musique chiptune, bien dans l'air du temps, un petit peu synthwave également.
Ouais.
Et on passe au sujet du jour ?
Et bah ouais, c'est quoi ?
Ah bah oui, c'est la crise, hein. Si vous n'avez pas encore entendu nos actualités dédiées spécialement au fail, alors vous êtes pâté à passer à côté d'informations capitales.
Vous êtes pâté. Vous êtes dans le pâté.
Oh oui. Mais oui, complètement. Mais oui, effectivement, si vous n'avez pas entendu encore nos actualités dédiées spécialement au fail, alors vous êtes passé à côté d'informations capitales sur de nombreuses difficultés rencontrées par les entreprises privées ou publiques. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait la récente découverte qu'il existe des institutions qui travaillent sur le sujet. Ils proposent même des guides en cas de crise liée aux cyberattaques. Nous allons voir donc ici un petit peu plus en détail ce qu'est cet organisme, qu'est-ce qu'une cyberattaque et la gestion de la crise pour s'en sortir. Alors, l'ANSSI, c'est quoi ? Pour ceux qui sont au fond de la classe et qui auraient mal compris, ça n'a rien à voir avec les caractères textuels comme l'ANSSI. Hein ?
Ah non, parce qu'il y a deux S.
C'est ça.
ANSSI, Non.
Ouais. ANSSI soit-il.
Selon Wiki, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Ouais.
C'est un service étatique français créé par décret en juillet 2009. Ce service à compétence nationale est rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. C'est sérieux, hein ?
Ah, c'est très sérieux.
Autorité chargée d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. L'ANSSI remplace la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, créée par décret en juillet 2001. L'ANSSI est héritière d'une longue série d'organismes au départ créé dans une optique militaire chargée d'assurer la sécurité des informations sensibles de l'État. Aujourd'hui, l'ANSSI a toujours une mission de défense des systèmes d'information et de l'État, mais elle est aussi chargée d'une mission de conseil et de soutien aux administrations et aux opérateurs d'importance vitale. Ainsi donc, un organisme étatique veille comme un peu la police, mais pas sans comic MS. Oh. Je vais revenir en fait.
Non, par contre, ils étaient sous Windows XP il n'y a pas très longtemps.
Encore. Ah,
j'ai des preuves, hein, j'ai des photos.
D'accord. Eh bien, je vais venir en fait de ce qui nous fait parler d'elle. Qu'est-ce qu'une cyberattaque ? Une cyberattaque ? Bah oui, c'est quoi ? C'est un acte malveillant envers un dispositif informatique via un réseau cybernétique. Une cyberattaque peut émaner de personnes isolées, ou plus récemment de vastes organisations ayant des objectifs géopolitiques. L'ANSSI l'assimile cela à une tentative d'atteinte à des systèmes d'information réalisés dans un but malveillant. Elle peut pour avoir objectif de voler des données, secrets militaires, diplomatiques ou industriels, des données personnelles bancaires par exemple, de détruire, endommager ou altérer le fonctionnement normal des systèmes d'information, dont les systèmes industriels, plus simplement, elle est l'une des méthodes pour affaiblir, paralyser, corrompre ou détruire une cible dépendant totalement ou en partie de la cybersphère.
Ah bah c'est pas gentil, hein.
Ah non, c'est pas gentil. Alors, quelles sont les cyberattaques les plus courantes ? Alors, vous en avez plein. J'ai juste recensé les 10 premières que j'ai trouvées. On a celles qui sont les plus connues, les attaques de déni de service, on appelle ça les DDoS. Une attaque de déni de service submerge les ressources d'un système afin que ce dernier ne puisse plus répondre aux demandes de service. Une attaque DDoS vise elle aussi les ressources d'un système, mais elle est lancée à partir d'un grand nombre d'autres machines hôtes infectées par un logiciel malveillant contrôlé par l'attaquant. C'est comme ça que souvent des sites tombent, sans qu'on sache trop pourquoi.
Ouais, bah c'est juste un sit-in en fait. Hein. C'est juste des gens qui se mettent devant pour empêcher les autres d'entrer. Hein. C'est pas bien plus que ça en fait. Mais bon, il paraît que voilà.
Ça fait quand même du mal. Néanmoins, beaucoup d'hébergeurs se prémunissent de ce genre d'attaque.
Avec plus ou moins de réussite.
C'est ça. Après, vous avez l'attaque de l'homme du milieu. L'attaque de l'homme du milieu est un pirate qui s'insère dans les communications entre les clients et serveurs. Donc voilà, il fait intermédiaire entre le client et le serveur, et du coup, bah, il se fait passer pour l'un et puis pour l'autre, et puis au final, Il récupère tout ce qu'il veut.
Comme quand on s'envoyait des mots sous les tables à l'école, bah, il y a celui qui passe, qui fait passer le mot, hop, il peut regarder et puis changer des trucs dessus, quoi.
C'est ça. Vous avez l'hameçonnage, le phishing, hein, comme on appelle ça. Il consiste à envoyer des emails qui semblent provenir de sources fiables dans le but d'obtenir des informations personnelles ou d'inciter les utilisateurs à faire quelque chose. Cette technique combine ingénierie sociale et stratagème technique. Elle peut aussi impliquer une pièce jointe à un email qui charge un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Ça, c'est un peu le coup classique. Hein. Qui n'est pas tombé sur un email de la Sécurité sociale ou de votre banque qui vous demande d'un coup de réinsérer vos codes personnels et confidentiels?
Ouais, sauf que c'était pas de la banque, en fait.
C'est ça. Vous avez aussi le téléchargement furtif, le drive-by download. Les attaques par téléchargement furtif sont une méthode courante de propagation de logiciels malveillants. Les pirates recherchent des sites web non sécurisés et insèrent un script malveillant dans le code HTTP ou PHP de l'une des pages. Ce script peut installer des logiciels malveillants directement sur l'ordinateur d'un visiteur du site ou rediriger celui-ci vers un site contrôlé par le pirate. Les téléchargements furtifs peuvent survenir lors de la visite d'un site web ou de l'affichage d'un email ou d'une fenêtre pop-up. En fait, il n'y a pas d'action à faire du côté client puisque dès que vous avez ouvert le site, c'est foutu.
Bah oui, puis il rentre par un trou de sécurité. Il fait, ah, il y a de la lumière, je suis rentré.
C'est ça. Après, vous avez le cassage par mot de passe.
Cassage.
C'est ça, cassé. Je vais pas vous l'expliquer, hein, sinon Brice va revenir. Mais ça, Je n'aurai pas autant de subtilité que lui dans son humour. Vous avez l'injection SQL. Hein, attention, les picouses. Elle est devenue un problème courant qui affecte les sites web exploitant des bases de données. Elle se produit lorsqu'un malfaiteur exécute une requête SQL sur la base de données via les données entrantes du client et du serveur. Des commandes SQL sont insérées dans la saisie du plan de données, par exemple à la place du nom de l'utilisateur ou du mot de passe, afin d'exécuter les commandes SQL prédéfinies. C'est comme ça que des grandes bases de données se sont retrouvées avec des miaou 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 partout. Vous avez le cross-site scraping. Les attaques XSS utilisent les ressources web tierces pour exécuter des scripts dans le navigateur web de la victime ou dans des applications pouvant être scriptées. Plus précisément, l'attaquant injecte un JavaScript malveillant dans une base de données d'un site web. Lorsque la victime demande la page du site web, le site web transmet la page à son navigateur et le script malveillant intégré au corps HTML. Le navigateur donc exécute le script et envoie le cookie au serveur de l'attaquant qui extrait et l'utilise pour détourner la session. Vous avez aussi les écoutes clandestines. Elles sont le résultat d'une interception du trafic réseau. Donc c'est comme si on vous écoutait à la porte.
Ouais, c'est les boîtes noires, quoi.
C'est ça. Elles permettent à un attaquant d'obtenir des mots de passe ou des numéros de carte bancaire et d'autres informations confidentielles qu'un utilisateur les envoie sur le réseau. Elles peuvent être soit passives ou actives. Vous avez les attaques anniversaires qui sont lancées contre les algorithmes de hachage et qui vérifient l'intégrité d'un message et d'un logiciel ou d'une signature numérique. Et enfin, vous avez les logiciels malveillants. Hein. C'est un logiciel qui peut être décrit comme un logiciel indésirable installé dans votre système sans votre consentement. Il peut s'attacher à un code légitime et se propager, se cacher dans des applications utiles ou se reproduire sur Internet. C'est des vrais virus, quoi.
Ouais.
Voici voilà un petit peu le tour d'une dizaine de cyberattaques.
Que joli panorama.
Voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Mais alors, qu'est-ce que la crise si d'une super... Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on a une cyberattaque? Qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi qu'on fait?
C'est quoi qu'on fait? Alors, les crises d'origine des cyberattaques ont de multiples spécificités. Elles sont fulgurantes. Elles attaquent à de multiples endroits simultanément. Il peut persister des incertitudes potentiellement durables liées au domaine. Les impacts sont difficiles à estimer et l'objectif de l'attaquant pas toujours facilement identifiable.
Bah, c'est souvent, il n'y a pas de traces.
C'est ça. Ce type de crise peut évoluer rapidement dans la mesure où les attaquants sont susceptibles de réagir aux actions entreprises par l'organisation ciblée. Par exemple, en effaçant leurs traces par des actions destructrices. La propagation du phénomène est potentiellement mondiale, compte tenu de l'interconnexion des systèmes, de l'existence de systèmes avec une empreinte mondiale. Les attaques peuvent se propager très rapidement, Par exemple, le rançon logiciel WannaCry, qui avait touché plus de 250 000 postes dans 150 pays en une seule nuit et plus de 900 millions de postes au total. Pour les attaquants, il est facile de réitérer leurs attaques avec le même mode opératoire. Il est donc crucial dans la réponse aux cyberattaques, non seulement de rétablir le bon fonctionnement des entreprises, mais également de rehausser le niveau de protection afin d'empêcher la réitération des attaques. C'est un peu comme si vous aviez attrapé le Covid finalement. À tes souhaits. Le rançongiciel WannaCry a ainsi contaminé des victimes durant plus d'une année après son apparition. La sortie de crise est longue, hein, plusieurs mois. La réponse technique, l'investigation numérique et le rétablissement du fonctionnement des entreprises sont des actions qui peuvent prendre beaucoup de temps. Les cyberattaques sont difficilement attribuables à une personne ou à une entité particulière, car il est aisé de dissimuler sa véritable identité grâce à l'usage d'outils comme des VPN pour faire croire que le pirate est situé à un endroit sur la planète alors qu'il n'en est rien. Ça, c'est facile, quoi. Et donc, quelles sont les conséquences d'une cyberattaque ? Les conséquences d'une cyberattaque sont multiples. Comme pour n'importe quel événement générant une crise pour votre organisation, les impacts peuvent être juridiques, réglementaires, légaux, pour les métiers organisationnels, financiers, réputationnels, techniques. Ils peuvent également engendrer de fortes pressions médiatiques. Hein. Surtout si tu es un État et que tu as perdu tes données, c'est pas bien. Et qui n'a pas entendu des histoires où les entreprises perdent des mois de données ou bien certains services publics comme l'hôpital qui se retrouvent à devoir écrire sur papier les événements liés aux soins des patients. Ça retarde pas mal de choses. Et comment s'en sortir ? Alors il faut collecter, analyser les éléments techniques permettant de comprendre le chemin d'attaque utilisé par les attaquants pour effectivement boucher les brèches. Hein. Restaurer les systèmes dans leur état initial en éjectant l'attaquant du système et améliorer la sécurité pour éviter une attaque similaire. Améliorer la sécurité à plus ou long terme par la définition et l'application de mesures de sécurisation et l'amélioration de supervision. Autrement dit, il faudra détecter plus facilement les attaques. Et il faut aussi réaliser des audits pour vérifier si le système informatique est bon. Cela veut dire lancer des attaques par des experts et vérifier si ça tient. Alors, les cyberattaques sont des signes de la guerre numérique. Les données restent des données et des monnaies d'échange très appréciables, car la revente peut être lucrative, mais vraiment bien lucrative. Mais mieux encore, bloquer un pays ou en déstabilisant un système informatique est une stratégie qui peut permettre de ralentir vraiment une économie d'un pays. La guerre numérique existe depuis bien longtemps. Elle est silencieuse comme un cancer et se propage. Savoir s'en prémunir est tout un art. Des choix s'imposent souvent avec des principes qui font encore transpirer beaucoup d'admin-sees pour arriver à survivre dans cette jungle informatique peuplée de nombreux prédateurs.
Waouh, ça fait peur!
Peur!
On va plus sortir sur Internet!
Ah ben après, vous êtes libre, hein. Le tout c'est que il y a des organismes qui veillent quand même.
Oui!
Qui donnent des conseils.
Oui, heureusement, oui.
Heureusement.
Heureusement. Voilà, voilà.
Eh bien, on écoute une nouvelle pause musicale avec Serror, qui nous fait une autre musique qui s'appelle Combe, pour se retrouver pour l'agenda.
Ah ben d'accord.
À tout de suite.
Thank you.
Toujours Serror avec Combe. Vous retrouverez les liens sur notre blog underscore.radio.fm et vous êtes toujours sur l'écoute de Radio Méga.
Eh ben oui, ou en podcast.
C'est ça. On passe à l'agenda ?
Eh ben qu'est-ce qu'on a ?
Et rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Ah, c'est vrai.
Utilisation de Knative et Kong pour une architecture microservice. Pour ce meet-up Ardèche Drome Dev, nous allons voir comment déployer et servir une architecture microservice sur Kubernetes grâce à Knative et Kong. Nous verrons les différentes étapes pas à pas et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à venir avec votre laptop pour tester la solution ensemble. Ce sera sur inscription le mercredi 2 mars de 19h à 21h au campus numérique Indie Alps, Valence, 33 Grande Rue.
Café Outil 63, concevez vous-même vos visuels web et print. Découvrez ce qu'il est possible de créer joliment et rapidement avec un logiciel gratuit réputé fiable, permettant le partage avec vos collaborateurs et incluant une belle banque d'images et de graphismes prêts à utiliser. Créez vos visuels à destination du web et du print de façon satisfaisante et bluffez votre entourage et vos clients. Entrée libre sur inscription le vendredi 4 mars entre 9h et 10h, le Moulin Digital, oui, avenue de la gare, 26 300 Alexandre.
L'AG de Fabat, oui je sais, on vous l'avait déjà annoncé, mais cette fois c'est vrai, le Fab Lab de Valence tient son AG. Il y aura sûrement des annonces intéressantes entre un nom et un logo, mais spoiler.
Ah.
Ouais, bah oui, parce qu'en fait on a oublié d'envoyer les convocations, donc on a été obligé de repousser. Donc ça sera pour les membres à jour de cotisation, vous pouvez toujours... prendre votre cotisation hein, en attendant. Ce sera le vendredi 4 mars à 18h30 au Technocite rue Barthélémy de la FEMAS à Valence.
Journée porte ouverte à Les Isards.
Ah ouais !
L'école publique d'ingénieurs de Valence vous ouvre ses portes. Ce sera le 5 mars de 9h à 17h à Les Isards, 50 rue Barthélémy de la FEMAS à Valence. Tiens, il y a des anciens par ici, je crois. Hein ?
Où ça ?
Du lien et des liens ?
Ouais, qu'est-ce qu'il y en a ?
Les vidéos du FOSDEM arrivent, en tout cas toutes celles de la DevRoom Rétro sont là.
Ouais.
Découvrez aussi les prods de la LoveByte.
Pensez à vérifier si vous êtes inscrit ou inscrite sur les listes électorales, un site permet de le faire facilement.
Vous vous croyez incollable en histoire ? Prouvez-le sur Wikitrivia.
Des chercheurs publient un outil permettant de récupérer un texte pixelisé. Parce que non, ça ne suffit pas pour cacher un texte, le floutage.
Non, il faut mettre un gros rectangle noir par-dessus. Et puis, il faut être sûr qu'il n'y ait pas le texte dessous quand on exporte en PDF.
Passons à l'astrologique. Qui frotte la boule ? SF, j'ai un nouveau scénario pour le futur. Le bug de l'an 3000.
Old school, des raster bars, c'est un endroit où il y a de la bière, c'est sûr.
Technophile, ça t'as intérêt à faire attention ou ça t'a.
Imprimeur, j'ai relu le texte, mais j'imprime toujours pas.
Un Microsoft, la semaine passée, j'ai été bloqué avec une mise à jour de Windows 10. J'ai tout réinstallé et il a fallu une mise à jour gratuite de Windows 11 et je suis bloqué.
Télétravailleur, j'ai fini mon rapport avec ma série.
Waouh ! Ça y est, on a fini notre émission ? Ou presque ?
Ah bah je sais pas.
Bah oui, ah ouais. En tout cas, retrouvez cette émission aussi rediffusée le samedi d'après sur Radio Méga et sinon en podcast sur underscore.radio.fm. Et la semaine prochaine, on se retrouve encore à la même heure le dimanche avec cette fois un sujet que Matt Bell nous aura préparé. Préparez-vous à découvrir un nouvel instrument de musique, ou plutôt un instrument numérique, que vous n'avez peut-être pas entendu parler. Ça commence par le M, hein,
mélodramatique, non.
Non, je ne sais plus. En tout cas, on verra ça la semaine prochaine. À très bientôt, bye bye.
Bye bye.
Salut.